Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un mal silencieux et assez mal connu. Et pourtant, il s'agit de la maladie chronique la plus fréquente, puisque d'après l'Organisation mondiale de la santé, elle concerne un adulte sur trois. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Cette augmentation de la pression sanguine dans les artères touche plus d'un milliard d'êtres humains. Et pour le seul territoire français, eh bien, on compterait 12 millions d'hypertendus, une pathologie étroitement liée à l'âge, également au mode de vie. Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'hypertension artérielle peut avoir de graves conséquences pour la santé. Elle accroît notamment le risque de maladies cardiovasculaires, qu'il s'agisse d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral. Elle peut aussi avoir un impact sur la fonction rénale. L'hypertension artérielle impose un suivi médical régulier et la prise de médicaments sur le long terme, le tout associé à certains ajustements en termes d'alimentation ou d'activité physique. Et nous le verrons, nous ne sommes pas tous égaux face à l'hypertension artérielle. Au-delà de l'âge, il faut aussi compter avec notre hérédité, notre origine ethnique et bien sûr notre hygiène de vie. Avec nous en studio, le professeur Jean-Jacques Mourad. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes responsable du Centre d'excellence européen en hypertension artérielle, à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en région parisienne. Et vous êtes l'un des auteurs du grand livre de l'hypertension artérielle, paru l'an passé aux éditions Erol. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Bénin. Nous allons rejoindre le professeur Marina Dalmeida Massouk-Boji, cardiologue à Cotonou. En fin d'émission, on retrouvera notre chronique sport et santé en compagnie du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler, vos témoignages, vos questions. Le numéro de l'émission Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75. Et c'est à l'occasion des 37e journées de l'hypertension artérielle organisées demain et vendredi à Paris que nous avons donc choisi de consacrer ce numéro de Priorité Santé à cette pathologie cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, favorisée par certains facteurs. On va en parler hein, tout au long de cette émission, professeur Jean-Jacques Mourad. Maladie dont le plus souvent, eh bien, il est très difficile, voire même impossible, de déterminer la cause. Et ça, on a du mal à se l'expliquer quand on est de l'extérieur, quand on n'est pas médecin.
C'est vrai que souvent la question « pourquoi je suis hypertendu ?» est soulevée et on est parfois extrêmement dérouté pour expliquer simplement les choses. Il faut se rendre compte qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une espérance de vie qui s'est incroyablement allongée et que quand on mourait à 50 ans, on n'avait pas d'hypertension en général. On mourait d'autre chose. Et en fait, on a vu maintenant que le vieillissement des grosses artères qui se rigidifient, qui se calcifient au cours du temps, élève la pression artérielle et que cette élévation de la pression artérielle induit elle-même des conséquences que vous avez parfaitement détaillées dans votre introduction. Et donc, la cause générale de l'hypertension artérielle, c'est un vieillissement plus ou moins précoce des gros vaisseaux qui induit une élévation de la pression dans toute la circulation artérielle.
Alors, professeur Jean-Jacques Mourad, on va le voir, l'hypertension, c'est un niveau de tension. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de mesurer cette tension ?
Oui, il y a plein de mauvaises manières de mesurer l'hypertension artérielle, de la pression artérielle. Et l'OMS insiste, et trop souvent même les médecins l'oublient, que la pression artérielle a par nature tendance à changer toutes les minutes. Et elle s'adapte à vos besoins. Si vous avez besoin de courir, si vous êtes stressé, si vous avez besoin de réfléchir, votre pression va s'élever. Donc, pour évaluer le niveau tensionnel, il faut être au repos physique et psychique. Et donc, on impose en général une bonne dizaine de minutes de repos physique et psychique. C'est-à-dire, on ne parle pas au patient, il ne bouge pas pour évaluer la réalité de son niveau tensionnel. Aujourd'hui, on sait aussi que mesurer la pression artérielle en face d'un médecin, c'est parfois inducteur d'élévation de la pression artérielle. Et on fait de plus en plus confiance aux mesures que nous rapportent les patients de leur domicile avec les petits appareils électroniques maintenant très largement diffusés.
Quand il y a une suspicion d'hypertension, il faut faire plusieurs relevés au cours d'une même journée ?
pas au cours d'une même journée, mais au cours de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon le niveau. Bien sûr, si les chiffres sont catastrophiquement élevés, on ne donnera pas ce délai-là, il faudra traiter plus vite. Mais si les chiffres sont modérément élevés, aujourd'hui, l'ensemble des recommandations préconisent de doter les patients suspects d'hypertension de petits appareils électroniques pour mesurer la pression à la maison et de revenir un mois après et de faire le point avec son médecin.
Est-ce qu'il y a une pression artérielle normale quand on est enfant, quand on est adulte et quand on est vieillissant, disons au-dessus de 65 ans?
Oui, alors la pression artérielle augmente progressivement au cours du temps. Et donc le 14-9 qui serait observé chez un enfant ou un adolescent de 10 à 12 ans
serait
déjà anormal.
On va revenir sur ce niveau 14-9 parce qu'il va falloir l'expliquer aux auditeurs précisément.
Et donc il y a des ABAC pour la pédiatrie et c'est bien sûr moins que 14-9. La définition reste la même pour les adultes, 14-9. Au-delà, de manière permanente, on est hypertendu. Mais les objectifs tensionnels chez sujets qu'on appelle, nous, maintenant, âgés, c'est plus de 80 ans et non plus de 65 ans, puisque l'espérance de vie s'est largement améliorée. Et à plus de 80 ans, les objectifs peuvent changer. On n'impose plus de revenir à en dessous de 14-9, mais on estime que inférieur à 15 est largement suffisant et raisonnable.
Professeur Jean-Jacques Mourad, 14-9, certains disent 140-90. Oui. Pourquoi ces différences de notation?
C'est l'expression, c'est des millimètres de mercure. Les appareils, quand ils mesurent en millimètres de mercure, et donc l'expression se fait avec les centaines, on est à 140. L'expression orale, souvent des médecins et des patients, c'est d'arrondir et d'exprimer en centimètres de mercure, et donc on est à 14 pour 140. Et 90 pour un 9.
Alors, professeur Jean-Jacques Mourad, il existe en fait deux types d'hypertension artérielle. Comment est-ce qu'on les distingue?
Alors, je pense que vous faites...
Allusion à l'essentiel et à la secondaire.
C'est ça. On va dire très grossièrement que 90% des patients ont une hypertension essentielle, c'est-à-dire dont les causes sont celles que vous avez citées, essentiellement le vieillissement et l'accumulation de petites dérives dans le mode de vie qui font que les artères ont vieilli suffisamment pour exprimer ce vieillissement sous la forme d'une hypertension. Et dans 10% des cas, il y a des causes hormonales à l'hypertension. Certaines hormones qui régulent la pression artérielle peuvent être sécrétées en excès, dans le cas de maladies le plus souvent bénignes, qui touchent les reins ou les petites glandes au-dessus des reins qui s'appellent les glandes surrénales. Et cette forme d'hypertension peuvent donner soit des hypertensions résistantes, c'est-à-dire qui résistent aux médicaments, soit des hypertensions très précoces ou très atypiques dans leur mode de présentation. Et nous, spécialistes, on est là pour, justement en particulier, détecter ces formes d'hypertension secondaire. Elles ont l'avantage d'être curables, c'est-à-dire si on soigne la cause, on peut guérir de l'hypertension au sens où on n'a plus à prendre des médicaments tous les jours.
Alors, dans votre ouvrage, professeur Jean-Jacques Mourad, Le grand livre de l'hypertension artérielle, vous insistez sur le moment du diagnostic avec des précautions à prendre au moment de l'annonce au patient. Pourquoi ?
On a, avec les recommandations françaises, beaucoup insisté sur ce temps, ce rendez-vous qui nous semble crucial et qui est aujourd'hui galvaudé, banalisé et bâclé. Et je pèse mes mots. Et on pense que cet instant où le sujet devient patient, puisque c'est souvent la première maladie que va avoir face un sujet bien portant et qui se sent bien portant, ne doit pas être bâclé au prétexte que c'est une maladie banale. Et que ce temps d'annonce et d'information va permettre de gagner du temps ultérieur sur l'adhésion du patient à l'ordonnance. Il suffit pas d'ordonner une ordonnance pour que ce traitement soit pris, on le sait, pour qu'il comprenne les choses, pour qu'il n'aille pas dans des médecines parallèles ou dans des forums parallèles d'information dans lesquels il y a à boire et à manger. Et que ce temps de pris, c'est un investissement dans la durée, dans la qualité de la prise en charge avec son médecin.
Alors, ordonnance, vous avez dit le mot, parce que souvent, quand on est diagnostiqué hypertendu, eh bien, ça veut dire qu'on va être pris en charge, une prise en charge médicamenteuse à vie, avec parfois l'association de plusieurs médicaments. Justement, qu'est-ce qui détermine qu'on va prendre tel ou tel produit?
Alors, on a l'avantage... Vous dites à vie, Caroline, moi je dis c'est pour la vie. Pour la vie parce qu'on fête cette année dans la grande indifférence le cinquantenaire du premier essai thérapeutique dans l'hypertension artérielle. C'est-à-dire il y a 50 ans, c'était une maladie orpheline qui ne se traitait pas. Et les gens qui œuvraient à cette époque-là se rappellent comment l'hypertension était maltraitée puisqu'il n'y avait pas de traitement et comment les gens mouraient. Donc, c'est des traitements pour la vie qui allongent l'espérance de vie. On a la chance depuis 50 ans d'avoir beaucoup, beaucoup de médicaments développés. Et comme il n'y a pas qu'une seule cause à l'hypertension, on est dans des phases de tâtonnement qui durent en général 6 mois à 1 an, que les malades ne comprennent pas toujours quand on leur a pas bien expliqué et qui nous permettent de trouver la bonne recette qui va être à la fois efficace et bien tolérée par le patient, qui sont les deux qualités gages de persistance, c'est-à-dire de maintien dans la durée d'une ordonnance. Et généralement, c'est quand même un peu opifométrique.
Alors, on va continuer à parler de l'hypertension artérielle dans Priorité Santé. Vous restez avec nous, professeur Jean-Jacques Mourad. On va prendre dans quelques petites secondes un auditeur en ligne.
Priorité Santé sur RFI.
Et cet auditeur nous appelle de l'Allemagne, de la ville de Bielefeld. C'est Gédéon. Bonjour Gédéon. Gédéon en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour Caroline, bonjour professeur.
Bonjour Gédéon.
On vous écoute, votre témoignage est certainement une question derrière.
D'accord, s'il vous plaît. J'ai 31 ans, on a découvert une hypertension artérielle chez moi il y a environ 10 mois. Là j'étais à environ 19 sur 2. Après un malaise au travail, j'ai été amené d'urgence à l'hôpital, où j'ai subi toutes sortes d'examens, y compris le morbus Fabry, et aucune cause secondaire n'a été découverte chez moi. À la sortie de l'hôpital, je prenais environ 6 médicaments différents, avec des différents effets secondaires. Actuellement, j'en prends que 3 et j'ai une tension d'environ 14,5. Ma question, c'est de savoir, est-ce possible que la cause de l'hypertension artérielle ne soit pas connue chez certains patients malgré tous les examens possibles? Et la deuxième question, connaissez-vous d'autres patients qui ont le même problème sans que la cause réelle ne soit identifiée?
Professeur Jean-Jacques Mourad, c'est une question qu'on posait au début de nos échanges. Moi, j'ai une autre question. 31 ans, c'est jeune, non? Donc, pour être hypertendu?
C'est jeune et c'est là où, effectivement, l'hérédité doit être questionnée, bien qu'on puisse rien y faire. Mais avoir une hypertension à l'âge de 31 ans justifie en tant que telle la recherche de cause à l'hypertension, même si l'hypertension ne pose pas de problème thérapeutique. Chez Gédéon, il y a à la fois la combinaison d'une présentation atypique, d'emblée avec beaucoup de symptômes, et puis la nécessité de prendre beaucoup de médicaments. Alors je suis ravi que maintenant, avec des traitements simplifiés, 3 médicaments, c'est aujourd'hui 30% des hypertendus ont besoin de 3 médicaments ou plus pour être contrôlés. C'est le gage d'une bonne protection à long terme pour ce jeune patient. Mais on a beaucoup de patients, Gédéon, je vous rassure, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, à avoir une hypertension essentielle, sévère ou résistante, mais sans cause.
Parce que avec ces médicaments, encore 14, 5 et 110, c'est encore un niveau assez élevé.
Alors, il n'a pas répliqué 110. Il a dit 14,5. Ouais. Je ne sais pas son deuxième chiffre, mais c'est vrai que si le deuxième chiffre était à 110...
Gédéon, votre deuxième chiffre de tension, quel est-il?
Il est entre 100 et 110.
D'accord. Donc, c'est supérieur à la norme que vous donniez tout à l'heure.
Vous n'êtes pas strictement bien contrôlé. Vous êtes probablement mieux contrôlé qu'au début. Et effectivement, alors, on n'est pas là pour faire de la consultation médicale, mais il faudra vérifier quand même si on a recherché des causes qu'on oublie parfois, qui sont en particulier la recherche d'apnée du sommeil et de pathologies du sommeil en particulier, qui sont des grandes inductrices de résistance à l'hypertension, en particulier sur des profils de patients comme le vôtre. Et donc, si vous avez des troubles du sommeil, si vous ronflez, si vous êtes un peu fatigué le matin, il y a suffisamment d'arguments, et si vous êtes un petit peu en surpoids, il y a suffisamment d'arguments pour aller rechercher une apnée du sommeil si nos collègues allemands ne l'ont pas déjà fait.
Professeur Jean-Jacques Mourad, donc le sommeil, un élément clé, hein. On prend des médicaments quand on dort mal, quand on a cette manifestation nocturne, et bien finalement, les médicaments font un moins bon effet.
Oui, il faut bien se rendre compte que quand on est hypertendu toute la vie, la nuit et le jour, et on dort 30% du temps de notre vivant. Et si et quand on dort et quand on a un sommeil correct, on baisse notre pression artérielle comme si on prenait un médicament pour la pression artérielle. Or, il y a certaines pathologies du sommeil où on dort moins et où la qualité du sommeil est moindre. Et il faut imaginer que quand la qualité du sommeil est moindre, la pression artérielle, pendant ces périodes où elle devrait être basse, elle est plus élevée. On est comme si on était réveillé. Et donc, on comprend bien que ces patients-là ont des dégâts artériels plus importants que les gens qui dorment bien.
Merci beaucoup, Gédéon, pour votre appel d'Allemagne. On va tout de suite entrer en relation avec Jacques, qui est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Jacques.
Bonjour, Madame Caroline.
On écoute votre question.
C'est-à-dire, je suis hypertendu, ça fait 3 ans que je suis hypertendu. Quand je marche, il suffit que j'augmente la vitesse, j'ai des douleurs au niveau du thorax, au niveau des œsophages, ça chauffe. Et puis quand on contrôle la tension, j'ai fait des fois 19-14, deux fois je suis à 20. Dernièrement ici, hier seulement, il suffit que je m'énerve, ou bien je discute longuement, et après quand je contrôle la tension, je suis dans le 14, dans le 17, 10, comme ça.
Jacques, vous nous dites que vous êtes hypertendu, est-ce que vous prenez des médicaments?
Oui, je suis sous l'Amlor, à l'Amlor 10 mg.
Professeur Mourad, qu'est-ce que vous pouvez dire
alors
à Jacques? Essoufflement, ouais. Ils sont...
Alors là encore,
c'est toujours
difficile de faire de la consultation à distance. Ce que je peux simplement dire, c'est que vous avez des manifestations qui tendent à faire penser que votre cœur supporte mal ce régime de pression, et on le croit aisément vu les niveaux de pression artérielle que vous nous rapportez, qui sont de l'ordre de l'hypertension qu'on appelle nous sévère. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher d'un cardiologue pour qu'il évalue la fonction de votre cœur. Bien sûr, tout ça peut être lié à l'excès de pression. Cet excès de pression peut bien sûr induire d'autres complications que vous signaliez dans votre question, qui sont effectivement les complications de type accident vasculaire cérébral. L'impression que j'en ai, moi, c'est que peut-être aujourd'hui, le médicament que vous prenez est soit insuffisant, soit pas complètement adapté au type d'hypertension que vous avez, vu les chiffres que vous gardez sous traitement. Donc, pas de médecine par téléphone, mais le conseil que je vous donne, c'est...
D'aller voir un médecin pour reconsulter, pour
cardiologue,
ajuster.
Et un cardiologue pour évaluer mieux, plus précisément, l'état de votre cœur.
Est-ce que vous avez accès à un service de cardiologie près de chez vous, Jacques?
Madame, je n'ai pas encore été voir un cardiologue, mais mon médecin m'a envoyé faire les examens. J'ai fait les examens, les résultats sont sortis et j'étais bradycardie. C'est-à-dire le battement de mon cœur était en dessous de la moyenne. Au lieu de 60 la minute, moi j'étais en 57, ça variait de 57 à 56 la minute. Voyons un peu là.
Oui, mais il y a d'autres paramètres qu'il faudrait effectivement revoir avec un médecin spécialiste au vu de ses résultats. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut vous donner à distance.
Merci beaucoup pour votre appel, Jacques. Et on va rester en République démocratique du Congo, Mbujimayi, avec André en ligne. Bonjour André.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, ma question est par rapport à l'hypertension. Je disais un grand-père qui est hypertendu il y a maintenant 8 ans, mais il arrive à faire un peu de crise. Mais nous sommes un peu éloignés de là où il y a les produits anti-hypertenseurs. Maintenant, je voulais un peu savoir comment on peut prévenir les risques de développer des factus et là, c'est aussi longtemps que nous ne sommes pas en possession des produits.
Alors la question que pose André est particulièrement difficile, hein, parce que prendre son traitement, c'est essentiel pour se stabiliser.
C'est essentiel, Caroline, et je voudrais à la fois dire que c'est peut-être compliqué pour le papa d'André ou le grand-père d'André, mais c'est parfois étonnamment compliqué pour un avocat habitant dans le 16e arrondissement de Paris. Ça répond à donc c'est des problématiques de non-adhérence que l'OMS a rappelées comme étant la future bataille pour améliorer le contrôle général de l'hypertension dans le monde. Et les réponses vont être différentes pour le grand-père d'André et pour l'avocat du 16e.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui n'a simplement pas accès à ses traitements.
Il y en a qui n'a pas accès à son traitement et l'autre qui soit rechigne à prendre ou qui n'est pas suffisamment organisé pour avoir pris le rendez-vous auprès de son médecin. Et donc, il faut s'organiser.
C'est très important.
Il faut se trouver des solutions et elles sont individuelles. Mais il faut prendre ces médicaments tous les jours.
Un suivi indispensable. Un professeur Jean-Jacques Mourad, merci. Merci à vous, André, pour votre appel de RDC. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de l'hypertension artérielle dans Priorité Santé. Le numéro de l'émission, 33 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Seconde partie de Priorité Santé consacrée à l'hypertension artérielle, toujours en compagnie du professeur Jean-Jacques Mourad, responsable du Centre d'excellence européen en hypertension artérielle à l'hôpital Avicenne à Bobigny, co-auteur du grand livre de l'hypertension artérielle aux éditions Erol. On l'a vu tout à l'heure en première partie d'émission, comme pour toutes les atteintes chroniques, la question de l'observance, de l'adhérence au traitement est au cœur de cette problématique de la maladie. Bon suivi, bon traitement, hygiène de vie, on va en parler tout à l'heure. Mais tout cela ne signifie pas pour autant guérison, professeur Jean-Jacques Mourad, juste correction, parce que l'arrêt du traitement induit le retour de l'hypertension.
La plupart du temps, oui, puisque s'il n'y a pas de cause sous-jacente et s'il n'y a pas eu de modification drastique dans son mode de vie et qu'il n'avait pas d'excès majeur de type, par exemple, l'alcool, qui en France est extrêmement impactant, et les alcooliques excessifs s'y s'arrêtent, peuvent réduire leur pression artérielle, normaliser leur pression artérielle. Mais dans les autres situations, s'il n'y a rien de magistralement changé, il faudra prendre un médicament et l'arrêt du médicament réinduira une élévation de la pression artérielle.
Y compris un surpoids très excessif ?
Alors on dit... Alors aujourd'hui on voit, puisque le modèle aujourd'hui des baisses de poids importantes, c'est la chirurgie bariatrique.
Et c'est-à-dire quand on met par exemple un anneau pour...
Oui, ou qu'on réduit le volume de l'estomac, on constate des pertes de poids extrêmement importantes de plus de 40 kilos parfois, et on constate des améliorations nettes du contrôle tensionnel, surtout du diabète au passage. Et l'hypertension, c'est moins flagrant, mais ça marche aussi. Mais les pertes de poids normales induites par un régime sont plus prolongées dans le terme et elles permettent de réduire de l'ordre de 10 mm de mercure par 10 kilos de poids perdu, mais la vraie difficulté dans ces cas-là, c'est de maintenir cette perte de poids avec le temps.
Parce que bien sûr, au-delà de l'hypertension, on va dire peut-être schématiquement, l'hypertension ne tue pas, mais les complications de l'hypertension sont très dangereuses.
Les complications de l'hypertension, elles sont très dangereuses et les gens ont parfois du mal à les appréhender parce qu'elles sont... Elles sont observées à distance parfois du diagnostic d'hypertension. Le modèle étant aujourd'hui, par exemple, la démence. Toutes les démences ont une composante vasculaire. Et on constate aujourd'hui avec bonheur, et j'étais un de ceux qui avaient fait ce pari-là, que le pic de démence est derrière nous dans le monde, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, parce que les déments d'aujourd'hui, ceux qui ont 90 ans, avaient 40 ans en 1967. Et en 1967, c'était le premier essai thérapeutique dans l'hypertension. Et donc, ces gens-là, à 40 ans, n'avaient pas de traitement antihypertenseur. Et le fait que le traitement s'est progressivement installé et contrôle de mieux en mieux les populations d'âge moyen va faire que la démence va être retardée. On commence à constater ça aux États-Unis en particulier.
Alors, il y a des personnes qui souffrent d'une autre maladie chronique qui peut être associée à l'hypertension. Ce sont les diabétiques. Bien sûr. Aussi, il faut faire particulièrement attention, professeur Jean-Jacques Mourad.
Ces deux maladies qui retrouvent des points communs dans leur genèse, qui sont en particulier le surpoids et la sédentarité pour le diabète de type 2. Et aujourd'hui, on sait que 50% des diabétiques ont également une hypertension artérielle. Et le traitement conjoint de l'hypertension et du diabète permet de réduire les complications des diabétiques.
Alors, on apprend aussi en lisant votre livre, professeur Jean-Jacques Mourad, que l'origine ethnique entre en ligne de compte dans la probabilité de souffrir d'hypertension artérielle. Les populations afro-caribéennes sont plus exposées, par exemple, que les personnes asiatiques. Comment on l'explique ?
Alors, il y a plusieurs manières de l'expliquer, en sachant que toutes ces données-là étaient particulièrement vraies à l'époque où le brassage ethnique était moindre qu'aujourd'hui. Et tout ce que je dis aujourd'hui doit être pondéré par le fait que la mondialisation a aussi du bon de ce côté-là et que les gènes se mélangent bien plus qu'à l'époque où les Afro-Américains se mariaient entre eux et sursélectionnaient des gènes de susceptibilité à la rétention d'eau et de sel. On dit classiquement que ces populations ici de l'esclavagisme, de la migration d'Afrique, sont des enfants, des survivants, des cales, des bateaux qui ont fait la traversée des esclaves. Et ceux qui ont survécu aux conditions extrêmes dans lesquelles ces esclaves étaient maintenus, c'est-à-dire la soif, le travail, etc., c'était des gens qui avaient des gènes qui leur permettaient de lutter contre la déshydratation et donc avaient une capacité à garder l'eau et le sel plus que les autres. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette quête-là, on est dans une période d'abondance d'eau et de sel, en particulier de sel aux États-Unis, et ces patients ces sujets qui gardent génétiquement cette susceptibilité à garder le sel, fatalement ont une proportion à devenir plus hypertendus. Et les choses changeront peut-être dans 1000 ans quand les gènes se sont adaptés à l'environnement.
À la rencontre de l'histoire et de la médecine, on va tout de suite prendre la direction du Bénin. Nous sommes en ligne avec le professeur Marina Dalmeida Massoukbodji. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes cardiologue à Cotonou. Professeur, est-ce que vous avez des données chiffrées sur l'hypertension artérielle au Bénin?
Oui, nous allons donc parler de la prévalence de cette maladie dans la population générale. Effectivement, plutôt avant 1950, on disait que les Noirs étaient plutôt hypotendus que pères, et surtout dans les populations Baka du Cameroun, c'est-à-dire les pygmées. Mais dès 1980, on s'est aperçu qu'au Bénin, la prévalence était déjà à 9%. Et dans les années 2000, nous sommes montés, les courbes de régression l'ont prouvé, à 25%. Et c'est là que nous avons eu un peu plus de peur, parce que les courbes de régression disaient que si nous ne faisons rien, cette prévalence allait être multipliée par 3 dans les horizons de l'an 2025. C'était un défi.
Mais comment expliquer cette augmentation, davantage de dépistage ou vraiment une hausse justement de cette pathologie au sein de la population?
C'est plutôt davantage de dépistage. Effectivement, au départ, en 1980, nous n'étions que 3 cardiologues au Bénin. Maintenant, nous avons plus de 60. Et les dernières recherches qui se sont passées donc en 2015 avec la méthodologie de l'OMS ont montré que cette courbe a stagné parce que nous avons trouvé en 2015 27%. En 2007, la même méthodologie nous donnait aussi 27%. Alors on s'est posé la question, est-ce que la régression, est-ce que l'évolution, bien disons, la progression a stagné ou on n'ose pas dire que ça a baissé? Non, parce que les intervalles de confiance sont larges. Donc c'est pour dire que l'hypertension artérielle a stagné depuis une dizaine d'années. Et nous sommes aujourd'hui à 27% au nord comme au sud.
Et comment traitez-vous ces cas d'hypertension artérielle au Bénin, professeur Dalmeida Massoukbodji?
Oui, nous utilisons avant tout la prévention que nous devons, sur laquelle nous mettons vraiment l'accent. Sur l'hygiène de vie, parce qu'il est dit que dans les populations noires, les personnes mangent trop de sel à cause de la chaleur. Et les messages de sensibilisation vont surtout dans les écoles primaires. Et j'étais étonnée la dernière fois, un groupe de jeunes de l'école primaire qui passait et qui se parlait, dit « La maîtresse a dit que si on mange trop de sel, on aura des AVC. » Alors j'ai rigolé. Ils vont trop vite hein, pour avoir l'AVC. Mais je pense que c'est des messages qui passent. Et nous utilisons aussi à outrance les réseaux sociaux, Facebook, surtout pour corriger les mauvaises informations qui circulent et pour en donner de plus simples, compréhensibles et agréables. Parce qu'il ne faut pas culpabiliser les malades ou effrayer, parce que vous savez, nous mourons plus souvent de nos peurs que de la maladie elle-même, dans le cas du cancer par exemple. Donc il y a des mots que nous essayons de ne plus utiliser, traitement à vie, nous disons plutôt traitement au long cours. Et à la fin, on dit qu'en pensez-vous? Voilà un peu ces petites choses peut-être qui ont évolué, mais ce ne sont pas les vrais déterminants. Les déterminants sont donc dans le domaine de la recherche que nous devons faire pour améliorer la prévalence de l'hypertension artérielle.
Vous parlez de l'alimentation comme mode de prévention. D'autres conseils, peut-être aussi face à l'urbanisation croissante, pour que les gens se remettent tout simplement à marcher?
Voilà. Effectivement, vous l'avez dit, l'activité physique est un déterminant important de la baisse de la prévalence de l'hypertension. Depuis 11 ans, donc, la marche du cœur est devenue une institution même nationale. Et nous avons fait dimanche dernier, nous avons vu près de 4000 personnes qui sont venues de tout bord, soit les jeunes, les personnes de certain âge. Nous avons marché à peu près 5 km et après nous avons fait des mouvements. Enfin, cette marche-là, elle est effectuée pour encourager les populations. Je ne veux pas dire que ça permet de faire baisser, donc pour encourager, faire comprendre aux populations que la marche du cœur, la marche, est une activité qui aide les athées à être plus souples et à garder un cœur jeune, voilà, par exemple.
Merci beaucoup. Prévenir, sensibiliser. Merci, professeur Marina Dalmeida Massoukbodji. Je rappelle que vous êtes cardiologue à Cotonou. Nos excuses pour les petites coupures sur la ligne, mais l'important était de faire passer votre message. On vous retrouve, professeur Jean-Jacques Mourad. Une question qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder depuis le début de cette émission. Le cas particulier de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. C'est important pour les futures mamans et aussi pour le bébé.
Vous avez raison, Caroline. C'est un point de vigilance qu'on a dans les pays développés, puisque c'était anecdotique pour nous, il y a 20 ans, d'avoir à discuter ce cas-là. En tout cas, de traiter, d'avoir des femmes authentiquement hypertendues qui ont à développer une grossesse, puisque classiquement, on disait que l'hypertension touchait les femmes après la ménopause. Mais les modifications des modes de vie des femmes, les grossesses tardives en particulier, font que parfois on croise des femmes hypertendues avec un désir et une capacité à tomber enceinte, comme on dit de manière malencontreuse. Et ça nécessite effectivement des précautions d'usage sur les médicaments, puisque en particulier certains médicaments qui ne sont pas d'une innocuité démontrée sur le fœtus. Et donc il faut arrêter certains médicaments. Et puis il y a cette forme d'hypertension de la grossesse qui survient comme un cataclysme, souvent au troisième trimestre d'une première grossesse, chez des gens qui n'ont pas d'hypertension. C'est ce qu'on appelle la toxémie gravidique, qui peut se terminer en pré-éclampsie, voire en éclampsie, qui est menaçante pour le fœtus et l'enfant et la maman, et qui nécessite souvent des déclenchements en urgence d'accouchement. Il y a beaucoup de connaissances autour de cette forme très particulière d'hypertension qui cède à l'accouchement. Ce qu'on sait, et le message important qu'on doit signaler aujourd'hui, c'est que les femmes qui ont présenté ce cataclysme sont plus à risque de développer ultérieurement une hypertension artérielle permanente. Et donc, ce n'est plus qu'un orage isolé. Il faut qu'elle soit suivie et dépistée peut-être plus attentivement que les autres femmes.
Alors, on a déjà parlé des complications pour le cœur, pour le cerveau, quand on parle de l'AVC. Il peut y avoir d'autres complications qui sont peut-être moins connues, en particulier pour les yeux et également pour les jambes. Certaines personnes, carrément, n'arrivent plus à se déplacer de façon fluide.
Oui, l'hypertension artérielle est donc un facteur de risque de ce qu'on appelle d'athérosclérose, donc d'accumulation de graisse dans les parois. Et donc, ça peut obstruer les vaisseaux et aboutir à ce qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs qui aboutit effectivement à des crampes dans les mollets quand vous marchez. Généralement, il y a d'autres facteurs favorisants comme le diabète, le tabagisme et le cholestérol en particulier. Ça donne aussi des anévrismes de l'aorte abdominale. Il y a beaucoup de gens célèbres qui sont morts des complications de cette hypertension à l'époque, on pouvait pas le soigner. Le général de Gaulle, par exemple. Et ça aboutit surtout à de l'insuffisance rénale, puisque la destruction à bas bruit des reins, c'est encore, avec le diabète, une des premières causes de dialyse dans beaucoup de pays en voie de développement.
Alors, beaucoup de questions de nos auditeurs hein, au sujet de cette pathologie. On va prendre tout de suite l'un d'entre eux en ligne. Il s'agit de Mathieu. Mathieu qui est en ligne de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, donc, comme je vous ai expliqué sur ma page, j'avais constaté que j'avais une tension qui montait jusqu'à 19. Et je suis allé m'examiner au plan inférieur. Je suis allé en consultation. Et là, ils ont dit que j'avais la tension. Ils m'ont demandé de faire un certain nombre d'examens. Que je vous ai donné les détails dans la page. Et après, il s'est avéré que j'avais un taux de cholestérol élevé, légèrement élevé pour le cholestérol T et le cholestérol LDL. Bon, la glycémie, tout le reste était bien, le couvercle du cœur était bien et tout. Bon, le président m'a demandé de me mettre sous traitement. Et donc, on m'a fait plus de tritazide, difficile. Alors, donc, depuis deux premiers mois de traitement, ma tension s'est stabilisée. Bon, après, au bout d'un certain temps, quand je prends le traitement le matin, elle chute en bas de 10. Pour ensuite remonter le cours de la journée, parfois 15. Et en ce moment-là, j'ai des migraines, je peux mettre mes lunettes. J'ai décidé unilatéralement, quand ce sera à vue de mes médecins, d'arrêter mon traitement et de me mettre au régime alimentaire et l'exercice physique. Et depuis, donc, ma tension s'est stabilisée. Ça fait déjà plus d'un mois, déjà presque vers deux mois. Et ma tension est aussi entre 11 jusqu'à 13 et plus. Bon. Donc, je ne sais pas si je dois continuer ou si je dois repartir vers mon médecin pour lui expliquer et qu'il change de traitement, ou bien je dois continuer à observer. C'est ça ma question. Et quelles conséquences peut-il y avoir si je continue à que je puisse rentrer avec mon traitement définitivement?
cette question de Mathieu, donc, qui a arrêté par lui-même son traitement. Il se demande s'il doit aller voir son médecin. Je pense que vous allez répondre par le positif.
Oui, c'est pas du corporatisme. Mathieu, c'est très dangereux de prendre des décisions tout seul dans cette maladie. Parce que parfois, on pense prendre des bonnes décisions et elles s'avèrent pas tout à fait logiques. Le vrai conseil que je vous donne, c'est qu'il faut vraiment considérer votre médecin comme votre partenaire de vie. C'est-à-dire ne rien lui cacher, ne surtout pas de vos questionnements. Vous avez le droit d'en avoir. Et une fois qu'il aura la connaissance parfaite de vos questionnements, il pourra vous trouver la bonne solution. Ce que je peux vous dire concernant votre traitement, c'est que vous avez probablement eu raison, entre guillemets, de vous questionner sur l'opportunité de votre traitement si votre tension passait en dessous de 10 et que vous aviez des vertiges. Mais le bon raisonnement, c'est effectivement d'aller en parler à votre médecin qui va vous trouver probablement des traitements plus adaptés, moins forts peut-être. Et pour la question du régime, il est difficile de le savoir. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que les régimes alimentaires dans l'hypertension, certains marchent, mais ils sont assez contraignants. Il y a un régime celui qui a fait la plus sa preuve dans la diminution à long terme de la pression artérielle s'appelle le régime DASH. D-A-S-H. Vous cherchez sur Internet, c'est l'acronyme pour Dietary to Fight Hypertension. Donc, c'est un régime qui est très riche en fruits et légumes, qui exclut pas mal les protéines carnées pour privilégier les protéines végétales, les graines, les fibres alimentaires solubles, les faibles matières grasses. Et donc, l'idée générale, c'est effectivement que ce régime a une efficacité à la fois pour le maintien du poids, ce qui est crucial dans l'hypertension, et surtout, effectivement, amener tout ce qui est plutôt bon pour faire baisser la pression artérielle. Mais le vrai conseil, le vrai message, c'est que souvent, ces régimes ne suffisent pas, et allez en parler à votre médecin. Il va trouver une solution. Mais prenez pas des décisions tout seul dans votre coin. C'est souvent extrêmement dangereux. On a perdu des gens qui ont pris des décisions tout seuls comme ça.
Voilà ce conseil du professeur Jean-Jacques Mourad. Merci beaucoup, Mathieu. On va prendre la direction du Cameroun, Yaoundé, où nous appelle Nadège. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Vous appelez pour le cas de votre maman.
Oui, effectivement. Elle a fait un AVC, ça fait 2 ans, et elle est sous traitement. Mais seulement, elle a tendance à vouloir abandonner. Et du coup, je voudrais des arguments pour la convaincre, parce qu'en fait, pour elle n'existe pas. Là, mais ça n'existe pas. Elle attend, c'est qu'en soi, d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Elle m'a envie d'abandonner, surtout que maintenant, je vis seule.
Le rôle de l'entourage qui peut être important aussi pour l'observance hein, quand les patients sont à bout.
Nadège pose la question qui aujourd'hui est la valeur ajoutée d'un médecin par rapport à un autre dans une époque où on va dire que toutes les stratégies thérapeutiques sont assez normées. La vraie difficulté dans cette maladie, comme dans d'autres asymptomatiques, c'est d'arriver à matérialiser le bénéfice pour un patient. Et matérialiser le bénéfice, ça va être une question effectivement de conviction. Et il n'y aura pas une solution unanime pour tout le monde, mais il y aura une solution personnalisée pour chacun. Donc, j'ai pas de conseil comme ça pour vous dire que c'est pas une malédiction ou comment la convaincre sans la connaître. Mais ce qui marche aujourd'hui et ce qui est vrai, c'est en plus chez des gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral, c'est leur dire, c'est vous éviter un second accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, on sait que l'hypertension est vraiment liée à la récidive d'un accident vasculaire cérébral. Et à la mort et surtout à la démence. Si votre maman, qui est encore jeune, à 62 ans, a envie de voir ses petits-enfants se marier, qu'elle soit pas en chaise roulante et qu'elle soit pas complètement dépendante de vos bons soins, il faut qu'elle prenne ses médicaments. Ces médicaments ont été associés à un allongement de l'espérance de vie et surtout la qualité de vie et l'absence de dépendance. Et ça, aujourd'hui, c'est des arguments qui portent à 62 ans.
Merci beaucoup Nadège pour votre appel et donc conseil, continue à appuyer votre maman pour qu'elle prenne son traitement. Dernier auditeur, il nous appelle de la région parisienne et c'est Victor. Bonjour Victor.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai deux questions. La première, je suis hypertendu et je suis sous diurétique. Je voudrais comprendre pourquoi ce médicament qui fait uriner, alors on est obligé de boire hein, dans la vie. On boit et après il faut éliminer, donc j'ai pas très bien compris pourquoi ce médicament.
Un petit déficit d'explication pour Victor.
Oui, alors ces médicaments agissent sur une des voies de régulation de la pression artérielle qui est la rétention de sel et d'eau par conséquent, qui est un peu modifiée chez certains sujets par rapport à d'autres. Et ces médicaments ne vont pas vous déshydrater, vous lyophiliser complètement, les choses se régulent assez rapidement et donc les diurétiques agissent en augmentant l'expression de sel que vous avez peut-être en excès chez vous.
Parce que le sel, c'est mauvais quand on est hypertendu, tout simplement.
Parce que le sel participe à l'augmentation de la volémie et donc la pression artérielle.
Vous aviez peut-être un petit dernier point à éclaircir, Victor, assez rapidement, parce que le temps nous presse.
Oui, par rapport aux chiffres, c'est-à-dire quand je suis au réveil, avant de mettre debout, je prends avec un petit appareil dont le docteur a parlé tout à l'heure. La tension, elle est normale, c'est-à-dire en 13,8, parfois même 12,7. Mais dès que je me mets debout ou que j'essaie de faire un mouvement, je monte à 15,16. Alors, est-ce que je suis hypertendu, pas hypertendu, moyennement hypertendu?
Votre réponse, professeur Jean-Jacques.
La définition de l'hypertension, c'est au repos. Si vous ne montiez pas votre pression artérielle à l'effort, vous ne serez incapable de faire un effort. Donc, toutes les valeurs à l'effort n'ont aucune importance pour la définition de l'hypertension. Ce qui compte, c'est la définition au repos. Vos chiffres au repos semblent corrects sous traitement, donc vous êtes un hypertendu équilibré.
Merci beaucoup Victor pour votre appel et merci à vous professeur Jean-Jacques Mourad. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre d'excellence européen en hypertension artérielle de l'hôpital Avicenne de Bobigny. L'ouvrage que vous avez signé, j'en rappelle le titre, Le grand livre de l'hypertension artérielle aux éditions Erol. Tout de suite, on va parler sport. Mercredi, c'est le jour de notre chronique santé-sport. C'est avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors, nos auditeurs ont certainement entendu parler un jour de cette blessure qu'on appelle le ligament croisé. Des gens qui disent « je me suis cassé » ou « je me suis rompu un ligament croisé ». Et docteur Sen, c'est quoi exactement un ligament croisé? Et à quoi ça sert?
Eh bien, Caroline, c'est vrai que c'est une blessure fréquente. C'est 6 à 7 sportifs sur 100 000. Alors, au niveau du genou, il y a 4 ligaments qui assurent la stabilité de l'articulation. Alors, c'est quoi un ligament? Un ligament, c'est un tissu qui relie deux os entre eux. Et donc, il y a 2 ligaments latéraux, et puis il y a 2 ligaments qui sont au centre de l'articulation. Et ils ont pour caractéristique de se croiser. D'où leur nom. L'un est en avant, c'est ligament croisé antérieur, l'autre en arrière, ligament croisé postérieur.
Du genou.
Du genou, absolument. Et ces ligaments croisés forment un véritable pivot central qui assure, pour une grande part, l'équilibre du genou. Alors, par un effet mécanique, évidemment, de maintien. Et puis, ce sont aussi de véritables capteurs qui renseignent sur la position de l'articulation et qui permettent aux muscles de se contracter au bon moment et de stabiliser donc cette articulation. Donc, leur atteinte est dite grave parce que ça compromet finalement la stabilité de cette articulation.
Alors, quels sont les symptômes d'une blessure du ligament croisé antérieur du genou et quelles sont les personnes à risque?
Alors, généralement, ça, c'est une blessure qui intervient lorsqu'il y a un mouvement de torsion, des mouvements dits en pivot, c'est-à-dire qu'on est en appui sur un seul des membres inférieurs, et puis on a une rotation du corps, ce qui met le genou véritablement en tension. Et on retrouve ça généralement dans des sports comme le football, le rugby, le judo, le handball, le ski ou la lutte. Alors, souvent, le blessé, initialement, va entendre un craquement. On va ressortir un déboîtement même de son articulation. Il a l'impression d'avoir une patte. Puis ensuite, cette articulation va gonfler du fait de l'hémorragie, d'un saignement qui est à l'intérieur de l'articulation. Et là, le médecin peut examiner l'articulation et va ressentir un jeu dans cette articulation. Et ça permettra bien sûr de porter le diagnostic. Éventuellement, s'il y en a besoin, il pourra prescrire une IRM.
Alors, est-ce que l'opération est obligatoire, systématique après la rupture?
Bon, alors Caroline, heureusement non. L'intervention chirurgicale n'est pas systématique et en tout cas, il n'y a jamais d'urgence à opérer un ligament croisé antérieur pour un genou pour refaire un ligament croisé antérieur. Bon, ça va dépendre de quoi? Eh bien, de l'importance de la lésion, du niveau de la pratique du ou de la sportive, de son âge et de la motivation du patient. Puis schématiquement, on peut dire qu'il y a 2 solutions. Ou bien le patient décide d'arrêter le sport pivot. Et à ce moment-là, il va falloir faire une rééducation, bien renforcer ce genou pendant 3 à 6 mois, et puis ensuite faire uniquement des sports en ligne. Le vélo, la course, la natation, courir sur terrain plat, bien sûr. Et puis, si le patient veut reprendre ce sport pivot, là, bien sûr, souvent, l'intervention chirurgicale sera nécessaire pour pouvoir permettre ce pivot et permettre la stabilité du genou dans ses mouvements en pivot.
Alors, est-ce qu'il y a des moyens de prévention de cette rupture du ligament croisé antérieur et comment reprendre une activité physique et sportive après traitement?
Absolument, Caroline. La prévention, c'est d'abord par le renforcement musculaire du genou. Vous savez, il y a ces muscles-là en avant, le quadriceps, quadriceps en arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, qui permettent de stabiliser cette articulation, et donc il va falloir les renforcer. Alors les activités qui permettent de renforcer ça, c'est quoi? Bah, c'est le vélo, c'est la course à pied, c'est la musculation, c'est le fitness. Et là, 2 à 3 séances par semaine, ça c'est parfait pour pouvoir renforcer finalement ces muscles et prévenir le genou. Il faudra travailler aussi l'équilibre. L'équilibre, c'est par exemple se tenir sur une jambe et puis faire des petits mouvements de balancement en avant, en arrière. Alors avec une difficulté croissante, on le fera lentement, puis plus rapidement, sur terrain, sur sol dur, puis en mousse, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Voilà, on travaille ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire ces informations sensorielles-là qui permettent de mieux adapter la contraction musculaire lors du mouvement. Et puis, bien sûr, il faudra aussi bien choisir son matériel. Par exemple, les chaussures de football. Il y a des chaussures de football qui sont à lamelles. Et ces lamelles-là se crampent, se fixe totalement dans le sol, et évidemment dès qu'il y a un mouvement de rotation, eh bien ça tord totalement le genou, et donc il faut choisir plutôt des crampons ronds, voilà, pour le matériel de football. Et normalement, voilà, si on choisit bien son matériel, si on travaille l'équilibre, si on renforce bien, si on suit tous ces conseils, eh bien même après une rupture du ligament croisé antérieur, on devrait pouvoir continuer à faire son activité physique favorite.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui fabrique et réalise votre émission chaque jour. Demain, on retrouvera le docteur Catherine Solano, sexologue, pour une émission consacrée aux 5 sens. Toutes vos questions, bien sûr, le numéro de téléphone de l'émission, c'est toujours le même, mais on le rappelle, c'est le 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.